Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être avec vous cet après-midi. Oui, pour rebondir un petit peu sur ce que la sœur disait, je suis simplement, aujourd'hui, je ne travaille plus dans le ministère pastoral. Je travaille dans le domaine de l'évangélisation. Nous sommes rattachés dans une église en région parisienne, mais notre ministère est axé sur l'itinérance, que ce soit dans les quartiers difficiles, dans les prisons, dans les endroits où il ne fait pas bon vivre, eh bien on y va pour annoncer les oracles et pour apporter justement à ces personnes, ces vies brisées, le témoignage de raconter ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous voyons des vies transformées. Tout à l'heure, on vous a passé une bande-annonce qui est issue justement d'un film documentaire qui a été réalisé au mois de décembre. Il est tiré du livre 52 964. Et maintenant, on va vous passer une bande-annonce d'un court-métrage que nous venons de réaliser, qui va sortir le 1er octobre. Alors, c'est une avant-première, un court-métrage vraiment avec un message profond, direct, pragmatique, un court-métrage qui mérite d'être diffusé à tout le monde et notamment à la jeunesse. Voilà. Voilà, ça a l'air brut comme ça, mais je vous assure que ça a un impact dans la vie des personnes qui se meurent et qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Amen. Donc, à la fin, il y a un petit stand où vous pourrez retrouver cela. Combien d'entre vous avez été bénis ce matin? Beaucoup de gens sont venus me voir, d'accord. Il y a des mains qui ne sont pas levées, ça veut dire que je n'ai pas été à la hauteur, oui. Je répète, je réédite. Combien d'entre vous avez été bénis ce matin? Je crois que Dieu a su parler à nos cœurs, que le peuple de Dieu dise amen. Amen. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux que de faire partie du peuple de Dieu. Nous savons que nous avons un Dieu qui change, qui transforme n'importe quelle vie. Amen. Amen. Je me souviens, il y a quelques mois, j'ai été dans une prison. Et il y avait un oratoire comme ça de prisonniers qui avaient lu mon livre. Alors certains étaient là par curiosité, d'autres étaient là parce qu'ils avaient le désir, l'envie d'écouter mon témoignage. Mais il y avait du monde et puis je suis rentré, je me suis un petit peu habillé comme tout le monde, pas comme ça, mais en jean, en basket. Et puis voilà, je me fonds dans la masse. Et puis il y a un rasta qui se lève et qui commence à scander mon nom. Yanis, viens. Et puis je le regarde. Je me dis, mais tiens, c'est Polo. Et vous savez, Polo, c'est un rasta, ça fait 17 ans que je n'avais pas vu ce gars. Et quand la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au quartier. J'étais un dealer et il venait chercher une petite barrette auprès de moi, quoi. Et là, il m'appelle, il me dit, Yanis, viens. Et je sais ce qui se passe dans sa tête, puisqu'il avait l'image de ce Yanis qui brillait, comme on dit, bling-bling, hein, qui vend de la drogue, qui a de l'argent. Et il se dit, moi je sais comment il vit, il n'a pas d'argent, et il est toujours en train de mendier une petite boulette de shit. Et là il m'appelle, et je sais ce qu'il veut, il veut une petite boulette de shit, et il se dit dans sa tête, chouette, Yanis il est là, maintenant ma vie dans ce milieu carcéral va changer, parce que je sais qu'il a de l'argent. Alors je m'approche de lui, je dis, Polo, comment ça va? Il me dit, ah Yanis ça va, bien, on discute un petit peu, et il me dit, mais pourquoi t'es là toi? Pourquoi on t'a incarcéré encore? Je lui dis, non Polo, aujourd'hui, c'est moi qui suis l'orateur, je suis l'invité. Et il me dit, quoi? C'est toi l'invité? Je lui dis, ouais, mais tu vas voir. Et puis après, il y a l'aumônier qui commence à me présenter, etc. J'arrive et je prêche l'évangile à ce gars qui me ressemble tellement. Et puis, à la fin, je fais un appel et Polo se lève, il s'approche et il me dit, Yanis, tu sais, quand j'étais petit, j'allais à l'église avec mes parents. Je faisais partie de l'école du dimanche et après, j'ai tellement fait de bêtises que je me suis enfermé dans l'idée que plus jamais ma vie ne changera, que j'étais né, destiné à vivre la misère toute ma vie. Mais il me dit, là en t'entendant, en écoutant ce témoignage, en voyant combien Dieu t'a changé, alors que tu avais une vie qui était complètement brisée, en constatant ce que Dieu a été capable de faire dans ta vie. Je n'ai pas pu résister à l'appel. Et là, je me présente devant toi. Dans mon cœur, je me dis que si Dieu a pu changer un gars comme toi, que si Dieu a pu reconstruire la vie d'un mec comme toi, il peut le faire dans ma vie. Je veux lui donner ma vie. Et là, dans cette prison, Paulo a pris un nouveau départ avec Dieu. Je crois que Dieu est celui qui reconstruit, qui change les vies. Et ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte pour enfants. Tout ce que nous voyons dans la Bible, tout ce que la parole de Dieu, nous venons de le chanter, la parole de Dieu est vivante. Tout ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, c'est pour que nous puissions le vivre, l'expérimenter. Alors cet après-midi, ce que je vous demande, ce n'est pas simplement d'écouter la parole, mais que réellement cette parole puisse pénétrer le plus profond de votre cœur. Que vous puissiez repartir, pas simplement avec une joie, un désir, une envie passagère, mais que vous puissiez repartir avec des convictions, avec la certitude que ça doit et que ça va changer. Amen. Néhémie avait une vision. Il a partagé cette vision à un peuple et des gens se sont ralliés, attachés. Des gens se sont laissés enrôler par cette vision. Et au travers de cela, ils ont pris la décision de reconstruire les murailles de Jérusalem. Néhémie 2, verset 18, ils ont tous dit à l'unisson, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Prendre une décision implique un caractère, une détermination, de la volonté, de la fermeté et du courage. Prendre une décision implique un engagement, une résolution commune. Et c'est ce qui s'est passé au sein de ce groupe. Levons-nous et bâtissons ensemble. Ils n'ont pas regardé à la tâche. Au préalable, ils ont regardé à leur insécurité, à ce qui brûlait dans leur cœur. Faire quelque chose pour Dieu. Et c'est ça qui a motivé leur décision. Peu importe la tâche que l'on va devoir accomplir, on veut se lever et on veut rebâtir. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose. Néhémie a réussi à communiquer un feu à ce groupe de personnes. Et aujourd'hui, à travers de cette convention, quelque part, c'est comme si Dieu essaie de passer par les uns et les autres pour nous communiquer son désir, sa vision pour la Belgique, pour nos églises, pour ses enfants. Pas simplement ceux qui sont dans l'église, mais ceux qui se meurent à l'extérieur. As-tu un rêve? As-tu une vision? As-tu souhaité de voir ton monde, ton environnement changer? As-tu résolu dans ton cœur d'apporter quelque chose à ton Église, d'apporter, de faire quelque chose pour le royaume de Dieu, d'être un bâtisseur, un constructeur, un acteur? À partir du moment où tu prends une décision telle, tu peux être certain que tu vas vivre des moments difficiles. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est comme ça. Alors que je discutais avec un pasteur algérien il y a quelques mois, ce pasteur connaît un franc succès dans son ministère en Algérie, pays fermé à l'Évangile. Il me dit, on m'a traîné devant les tribunaux, on m'a fait des menaces de mort, mais pourtant mon église ne cesse de croître. Plus de 500 personnes. J'ai demandé au pasteur, mais quelle a été la clé pour voir l'église grandir? Il m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais Yanis, à force de prier, Dieu nous a montré qu'il était temps pour nous de vaincre la peur, de vaincre la peur et de nous appuyer sur lui. Voilà pourquoi je dis que prendre une décision implique de la fermeté et du courage. Et Néhémie était un homme de caractère, est un homme courageux, parce qu'ils vont souffrir, ils vont connaître des persécutions, conspirations contre eux, ils vont ressortir, ils vont ressentir la fatigue, ils vont être trahis, ils vont être persécutés, parfois même découragés. Bref, tout va être entrepris pour stopper, cesser, casser leur élan. Mais pourtant, ils ne vont rien lâcher. Ils ne vont rien lâcher. Nous ne devons pas avoir peur d'essayer. Nous ne devons pas avoir peur de nous engager. Nous ne devons pas avoir peur de nous ouvrir au monde à l'extérieur. Nous ne devons pas avoir peur d'avancer. Nous ne devons pas avoir peur. Si nous voulons que les choses changent autour de nous, alors premièrement, nous devons changer, vaincre nos peurs, vaincre nos craintes. Quand l'œuvre de Dieu progresse, l'adversaire prépare toujours une offensive adéquate. Ça fait partie de la vie. La vie sur cette terre, c'est un combat. Mais le Seigneur dira, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Prenez courage, fortifiez-vous, parce que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est fidèle. Dieu est concerné par nos actions. Dieu nous accompagne dans nos actions. Dieu n'est pas insensible à ce que nous traversons. Mais surtout, le cœur de Dieu est touché lorsqu'il voit un peuple s'unir et avancer pour la même cause, poursuivant le même but, jusqu'au bout ensemble. Beaucoup de personnes ont vécu le découragement parce qu'à un moment donné, ils s'arrêtent, ils regardent aux circonstances dans lesquelles ils évoluent. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Lorsque nous prenons par exemple 1 Roi 19, versets 3 à 4, il est question que Élie avait remporté une grande bataille sur le mont Carmel. Et après, à cause de la menace de Jézabel, il va prendre la fuite dans le désert. Il marche, il s'arrête, il s'assit sous un genêt. Et il dit, il demande la mort. Et il dit au Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est terminé pour moi. Voilà la prière d'un homme qui a été l'instrument de Dieu. Il réalise qu'il n'est rien du tout sans Dieu. Il réalise son incapacité, son impuissance. Alors il dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il veut mourir, il est tellement découragé. Et c'est valable pour nous. Parfois, les vents contraires peuvent nous décourager, peuvent nous stopper. Mais nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas regarder simplement à ce que nous sommes capables de faire, mais surtout à ce que Dieu est capable d'accomplir dans notre vie. Celui qui a fait cette affiche a été inspiré. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Demandons l'impossible, ordonnons à cette montagne qui se dresse devant nous de s'écarter de notre chemin. Cette montagne qui représente parfois tout un tas de choses, cette montagne qui nous divise, cette montagne qui nous sépare, cette montagne qui nous empêche de rêver, cette montagne qui nous cache le désir, la vision de Dieu pour notre Église, notre pays, cette montagne qui nous terrasse intérieurement, cette montagne qui nous effraie. Demandons à Dieu l'impossible. Être découragé est l'un des sentiments les plus affreux qu'un chrétien va rencontrer sur sa route. Et il n'y a qu'une intervention de Dieu qui nous permettra de prendre un grand bol d'oxygène pour aller de l'avant. Alors que nous prenons cette résolution dans notre cœur comme Néhémie, d'aller de l'avant, de reconstruire, de bâtir le royaume de Dieu, il y a des choses que nous allons rencontrer dans notre vie. Et comme Élie, nous ne devons pas nous focaliser sur les critiques, les murmures, sur ce qui se passe autour de nous. Non, nous devons nous focaliser sur l'Éternel. Dieu est entré en action. Dieu entre en scène et dit à Élie, c'est pas terminé, c'est pas fini. Tu dois encore aller oindre Hazaël. Tu dois aussi oindre Jéhu. Et Élisée, c'est pas terminé. C'est pas fini pour toi, Élie. T'as encore du travail. Et c'est la même chose aujourd'hui pour nous. Il y a encore du travail. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'asseoir comme si tout était fini en attendant que ça se passe. Rien n'est fini. Ça commence aujourd'hui. Rien n'est terminé. Rien n'est mort tant que ce n'est pas enterré. Ça commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons décider de changer. Nous ne devons plus laisser le découragement nous paralyser, nous empêcher d'avancer. Le 31 décembre 2009, j'ai connu le jour le plus difficile, le plus tragique de ma vie. Mon épouse qui venait de mettre notre enfant au monde est rentrée à la maison et pendant la nuit, fait une hémorragie cérébrale. Je l'ai amenée à l'hôpital le matin et les médecins qui l'ont conduit au bloc opératoire m'ont dit « On ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait même pas si elle va revenir et si elle revient, on ne sait même pas si elle sera sur ses deux jambes et dans quel état psychologique elle sera. On ne sait pas. » En entendant cela, j'étais brisé intérieurement, détruit. Moi qui voulais toujours avancer, toujours faire pour le Seigneur, je réalisais à quel point je n'étais rien, tellement petit, tellement impuissant face à cette situation tragique. Quelques heures plus tard, mon épouse est sortie du bloc opératoire. Je ne savais pas dans quel état elle était. Et alors que je l'ai vue sur son lit de réanimation, elle était à peine consciente. Je me suis approché d'elle, j'ai dit « Chérie, tellement j'étais découragé. » J'ai dit « Chérie, si tu veux, j'arrête tout. Le ministère terminé, tout ce qu'on a entrepris, fini, terminé. Je ne veux même plus en parler. Si tu veux que je reste avec toi, si tu veux qu'on vive, toi et les enfants, même à la campagne, tranquillement notre vie, je le fais tout de suite. Dis-moi simplement un mot et je stoppe tout. » Dans son état, mon épouse m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit, si tu fais ça, Yanis, si tu arrêtes tout, l'ennemi aura gagné. Si tu stoppes tout aujourd'hui, le monde, les gens qui sont encouragés par ta vie, ton témoignage, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ils vont ressentir cela? Tu ne peux pas arrêter. On ne peut pas arrêter. On doit continuer. Alors je me suis levé, j'ai commencé à invoquer le Seigneur, j'ai commencé à envoyer des SMS à des pasteurs, une chaîne de prière s'est mise en route, l'église ici, même des gens ont prié pour nous. Et je vous assure que Dieu n'a pas tardé à agir, mon épouse est là, elle est ressortie, elle est intacte, elle est sur ses deux jambes et elle vous fait un grand sourire là, à l'instant. Dieu est grand. C'est Dieu qui aura toujours le dernier mot sur notre vie. Et nous ne devons pas nous laisser terrasser par la crainte ou le découragement. Nous devons avancer parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Osons demander l'impossible à Dieu. Vous savez, Néhémie, je crois que c'est un mot qu'il a banni de sa pensée, de sa bouche, le mot impossible. Impossible. N'est pas chrétien, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Je dis impossible n'est pas chrétien, parce qu'avec Dieu, tout est possible. 2 Corinthiens 4, verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Amen. Il faut qu'on avance, peu importe les pressions. Il y en a marre de se laisser faire. Il y en a marre de subir. Il y en a marre d'être résigné dans son cœur en se disant « on ne peut pas, on ne peut rien faire, on ne peut pas agir, c'est trop dur, c'est pénible, la tâche est trop grande ». Non, nous devons nous lever ensemble, détacher nos yeux de ce qui nous affecte et commencer à focaliser notre regard sur le Dieu de l'impossibilité. À quoi ça sert de dire que tu sers, ou de chanter même que tu sers un Dieu puissant, si toi-même tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu dans ta vie? Il est bon de décliner les attributs de l'Éternel, mais c'est encore mieux de les connaître et de les expérimenter. Qu'à partir d'aujourd'hui, une soif, un désir, une faim commune puissent naître en nous. Que chaque jour, nous puissions aspirer, soupirer auprès de la présence de notre Père, délecter sa parole afin de l'appliquer dans notre vie. Nous avons tellement besoin d'expérimenter ses bienfaits dans notre vie. Il peut faire l'impossible. Il peut accomplir des choses dans ta vie que toi-même, tu n'as même pas soupçonné. J'aime le frère qui a parlé de Job. Job pensait connaître Dieu, mais lorsque Dieu s'est révélé, manifesté à lui, il a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Amen, amen. Que nous puissions voir Dieu agir au sein de nos églises. Que le monde puisse voir Dieu agir au sein de son Église. Que nous puissions briller, nous distinguer au sein de ce pays divisé. Que les politiques puissent se tourner vers l'Église pour leur demander conseil. Il y a eu des Daniel, des gens qui étaient influents. Il y a eu des Néhémie, des gens qui étaient influents auprès des autorités. Pourquoi aujourd'hui il n'y aurait pas des chrétiens qui sont influents auprès des autorités? La Belgique a besoin de vous. Je dis, la Belgique n'a jamais eu autant besoin de vous que maintenant. Dieu aime la Belgique. Je dis, Dieu aime la Belgique. Et ensemble, nous devons reconstruire la Belgique. Ensemble, Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous espérons ou pensons, à lui soit la gloire. 52 jours. En 52 jours, ils ont achevé le travail. Néhémie et 42 équipes ont achevé les murailles. Comme je vous l'ai dit, une décision, une prise de conscience, une motivation, un zèle, un engouement leur ont permis d'aller jusqu'au bout de leur rêve. Chacun avait sa tâche, il y avait des corps de métiers différents, mais tous travaillaient pour le même but d'un commun accord. Dans l'Église, que tu sois jeune, que tu sois vieux, il y a forcément un don que Dieu a mis dans ta vie. Et ce don-là, l'Église en a besoin. Imaginez-vous, moi je suis émerveillé, j'étais époustouflé en entendant les chants tout au long de cette journée. Imaginez-vous le potentiel qu'il y a ici. C'est une mine d'or, c'est un trésor. Je ne parle pas d'âge, je parle de ce que Dieu a enfoui au sein de vous. Il y a un potentiel extraordinaire. Si simplement on se réunit, on s'unit, on partage nos dons, nos talents, on les met en avant, je vous assure que vous allez voir l'Église grandir comme jamais, comme jamais. Les dons, les talents que Dieu vous a donnés ne sont pas faits pour être cachés, mais pour être au service de l'Église. Les jeunes, arrêtez de chanter dans votre chambre, allez voir le pasteur, exprimez-lui ce que Dieu a mis dans votre cœur. Vous avez des dons, il y a forcément quelque chose en vous qui peut répondre à un besoin dans votre Église. Et vous avez ce devoir de le mettre en avant pour le service de l'Église, pour le corps de Christ. Alors nous allons voir la moisson arriver. Nous devons semer ensemble, semer, inlassablement semer, encore et encore. Parce qu'évangéliser, c'est bâtir des vies. Le grand mandat que Dieu nous a confié, c'est bien sûr Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et comme le monde est enténébré, parfois nous voyons des gars, nous disons « impossible, impossible que cette personne change, impossible de changer mon quartier, impossible d'oser même témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, impossible !» Pourtant, Dieu a besoin de Néhémie aujourd'hui. Et vous êtes ces Néhémies. Dieu a besoin de vous utiliser. Vous êtes un instrument de Dieu par lequel il veut passer pour construire, rebâtir des vies. Dieu est capable de toutes choses. Et nous ne devons pas nous laisser enfermer dans le tombeau de l'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible avec Dieu. C'est possible de voir ce pays changer. Mais ça passe par un changement de mentalité, de manière de faire, de conception de la puissance de Dieu qui agit en nous. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu es prêt à changer? C'est la question fondamentale. Est-ce que les jeunes sont prêts à changer? Est-ce que les pères sont prêts à changer? Est-ce que l'Église présente ici est prête à changer? Est-ce que vous êtes prêts à changer? J'entends pas. Bah dites-le haut et fort, oui, nous voulons changer. Ne soyez pas timide. Est-ce que tu crois au changement? Est-ce que tu crois au changement? Est-ce que tu crois au réveil? Est-ce que tu crois que ce que Dieu dit dans sa parole, il est capable de le faire? Oui, toi, tu n'es pas capable de le faire, mais lui, il est capable de le faire. Il est capable. Demandons l'impossible. Soyons réalistes, nous sommes incapables. Mais Dieu est capable. Voilà pourquoi nous voulons lui demander l'impossible. Je me souviens de ce jour, cette matinée où j'étais en conversation avec un pasteur, je t'assis dans son bureau et ce n'est pas vraiment dans ma nature, mais je me suis mis à pleurer. Et alors que je fondais en larmes, il me regarde, il me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a Yanis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état ?» Il croyait que c'était des larmes de tristesse, je lui dis « Non ». Je lui dis « Tu sais pasteur, je vais t'avouer un secret maintenant. » Il me dit « Lequel ?» Je lui dis « Voilà. Il y a 7 années en arrière, je m'étais garé derrière ton église en vue d'attaquer la banque qui est là, tu la vois? Et je me suis mis derrière l'église, j'ai pris mon arme, j'ai attendu les employés, j'ai pillé cette banque et puis après, je suis reparti chez moi, dans ma folie, dans mon égarement. Et là, maintenant, 7 années plus tard, je suis assis dans cette église, j'ai une pleine vue sur cette banque et je réalise que Dieu a changé ma vie. Et je lui dis, s'il te plaît, prenons un temps pour le remercier. Alors j'ai commencé à le remercier. J'ai dit, Seigneur, merci d'avoir mis une femme sur ma route. Une femme qui a cru en l'homme que j'étais, qui a cru que Dieu était capable de me changer. Une femme qui a eu un autre regard que la société avait sur moi, que les gens de mon entourage avaient sur moi. Une femme qui en réalité a posé le regard de Dieu sur ma vie. Et j'ai remercié le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je suis trop petit pour toutes les bénédictions que tu m'as attribuées, accordées. Alors je vous le dis, Dieu est capable de changer des vies. Dieu est capable de restaurer des vies brisées, de reconstruire, même au milieu des décombres, des ruines. Dieu a encore quelque chose à faire. Rien n'est mort tant que ce n'est pas enterré. Vous avez quelque chose à faire aujourd'hui. J'aimerais vous demander de laisser ce héros-là qui est en vous se réveiller. Permettez à ce héros, à cet homme, à ce soldat de l'Éternel de prendre sa place aujourd'hui. J'aimerais vous demander de vous lever, de vous engager, de ne plus jamais rester les bras ballants comme si tout était fini. Rien n'est fini. J'aimerais vous demander de prendre conscience de ce que Dieu attend de vous. Un verset, ce verset, il est universel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, allez jusqu'aux extrémités de la terre. On le connaît tous, mais parfois, on ne veut même pas dépasser l'extrême de son cœur. Qui sait l'extrême de ton cœur ? Ça peut être ton voisin, ça peut être cet ivrogne, ce délinquant qui est en bas de ton quartier. Bref, on n'est pas prêt pour dépasser ces extrêmes. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions nous laisser enrôler par son mandat. Dieu veut que nous puissions nous impliquer dans son œuvre. Et pour cela, nous avons besoin de nous laisser faire, de nous laisser construire, forger, bâtir par lui. Nous avons besoin de travailler ensemble. Laisse ce héros-là qui est en toi prendre toute la place. Peut-être que tu as connu des déceptions dans ta vie, dans ton ministère, dans ton service. Peut-être toi qui es jeune, tu as été déçu par l'Église, déçu par tes pères, déçu par la vie. Et comme Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que Dieu t'a donné. Ranime ce feu du premier jour. Ranime, reviens à la vie. Reviens, laisse l'espoir renaître. Laisse Dieu reprendre sa place au centre de ta vie. Ne laisse pas les circonstances affecter ta marche. Souviens-toi de ce jour où tu as prêté allégeance à l'Éternel. Ces moments merveilleux où tu étais enflammé. Tu voulais tout casser autour de toi tellement tu avais soif du changement. Fin de ma parole. Tu étais prête à tout. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ranime le feu du premier jour. Laisse-moi reprendre ma place dans ta vie. Laisse-moi reprendre ma place. Vous savez, quand Joseph a été conduit en Égypte, son père croyait qu'il était mort. Il croyait ne plus jamais, jamais, jamais entendre parler de lui, ne plus jamais le revoir. Et même quand ses enfants lui ont dit « Joseph est encore en vie », il n'y croyait pas. Intérieurement, il était mort, brisé, à cause de la perte de son fils bien-aimé. Mais à un moment, voici que Joseph arrive avec son armée, il vient chercher son père. Et ses enfants arrivent. Il dit, Joseph est là. Regarde, regarde. Alors il y a l'espoir qui renaît en Jacob. Jacob, il dit, arrêtez tout. Mon fils est vivant. Il s'est levé, il est reparti vers son enfant. Pasteur, père, mère, j'aimerais vous dire, en conclusion, vos enfants ne sont pas morts. Votre jeunesse n'est pas morte. Peut-être que ce temps où vous avez cru qu'elle s'était égarée était peut-être un temps que Dieu avait pris pour préparer l'Église demain. Vos enfants sont encore là et ils ont besoin de vous. Ne laissez pas les circonstances vous faire croire que vos enfants ont abandonné Dieu. Ne laissez pas les circonstances vous faire croire que vos enfants se sont égarés ou que l'Église a perdu la jeunesse. Non, vos enfants sont encore là. Vos enfants ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont en train d'être préparés par Dieu. Je crois fermement que Dieu est en train de susciter, de lever une Église au travers de la jeunesse, une Église glorieuse, une Église merveilleuse qu'il va utiliser pour impacter le monde. Mais ces jeunes qui sont là ont aussi besoin de vous, ont besoin de croire que vous croyez en eux. Ils ont besoin de guides, ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin de Néhémie, de bâtisseurs, de gens qui influencent, qui communiquent un zèle, un feu, un engouement qui les emmène à progresser, à aller de l'avant. Ils ont besoin de trouver leur place dans leur Église. Au travers de ce que vous avez fait aujourd'hui, je crois que tout a été dit. Levons-nous ensemble et bâtissons. Demandons l'impossible. Soyons réalistes. Levons-nous ensemble et marchons ensemble. Et alors, je suis certain qu'à la fin, chacun d'entre nous, nous pourrons être satisfaits comme Paul et dire aux générations futures, oui, nous l'avons fait, nous avons réussi. Ce n'était pas facile, mais on l'a fait ensemble, on a réussi, on a reconstruit notre pays, on a influencé notre pays, on a relevé une jeunesse, on a appris à travailler ensemble pour le même but, la même cause. Et alors, le jour où toi, mon frère, ma sœur, te présenteras devant Dieu, tu auras cette satisfaction d'avoir combattu le bon combat et achevé la course. Voilà ce qui est important, combattre le bon combat et achever la course ensemble. Achever ensemble. Cet après-midi, je crois que nous devons prendre la bonne décision, celle de travailler ensemble. Je vais appeler le frère pour revenir nous faire un chant. J'ai demandé aussi à ce que quelques pasteurs puissent venir prier. Mais je vais surtout demander au peuple de Dieu qui est là cet après-midi, aux jeunes et aux moins jeunes, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent relever des défis nouveaux, marcher ensemble. J'aimerais vous demander d'oublier tous les problèmes, tous les soucis, et vous les connaissez, afin de vous focaliser sur une vision commune, celle de construire, vision d'avenir, vision pour notre jeunesse, une vision pour nos églises, une vision pour notre pays. C'est là-dessus que nous devons nous attarder. Que ta volonté, Seigneur, s'établisse dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre communauté. Et alors seulement tu seras glorifié. Y a-t-il des Néhémies? Y a-t-il des personnes, jeunes, moins jeunes, qui sont prêts à se lever et à s'engager dans cette dimension? Combien y en a cet après-midi? N'ayez pas peur, levez-vous à votre place. Vous qui avez été interpellé, vous qui voulez prendre cette décision, vous qui en avez assez de ne rien faire, de voir vos pères se fatiguer inlassablement à la tâche, vous qui voulez prendre partie prenante du travail, aller au combat avec vos frères, avec vos sœurs, vous qui voulez glorifier le nom du Seigneur au sein de votre église, de votre quartier, de votre pays, je vous demande de vous lever. Venez. Venez, remplissez les rangs, sortez des rangs, faites un pas de foi vers le Seigneur. C'est pas grave, s'il n'y a pas de place, on va trouver la place et on a le temps. Venez, mes bien-aimés, et je demande au pasteur aussi de s'approcher sur le devant. Et on va simplement prier pour vous. Je crois que c'est symbolique, mais c'est fort. Et c'est une manière pour nous de montrer à Dieu qu'aujourd'hui, son peuple veut s'humilier. Son peuple veut s'en remettre à lui pour connaître un nouvel élan, un nouveau départ. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, nous allons le vivre ensemble. Ne restez pas à votre place. Venez, venez, sortez des rangs, s'il vous plaît. Sortez des rangs, sortez des rangs. Voilà. Je demande aux pasteurs qui sont présents dans la salle de venir sur le devant, de manière à commencer à prier pour les gens. Pendant que les frères vont nous conduire dans la louange, nous on passe et on prie pour vous. Et une fois qu'on a prié pour vous, vous regagnez vos rangs. Alléluia. Ceux qui sont restés derrière, venez, venez, mettez-vous sur le côté. Voilà, c'est vraiment important. C'est un symbole d'unité qui est fort et qui glorifie le Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui s'approchent, Seigneur. Je crois que cet après-midi, tu vas faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Et alors que nous allons passer, Seigneur, afin de prier pour eux, je te demande, Seigneur, de ranimer ce feu, ce zèle du premier jour. Et que plus jamais, Seigneur, nous soyons les mêmes. Que nous puissions nous engager ensemble, Seigneur, et poursuivre la tâche, Seigneur, celle dans laquelle tu nous as enrôlés, Père de gloire. Amen, amen, amen.